France Musique. Musicopolis.
Juillet 1950, Aix-en-Provence. La cour de l'archevêché, en cette chaude soirée de juillet, bruit des conversations des festivaliers qui attendent le début du concert. L'orchestre national est riche ce soir de 5 trompettes, d'une batterie très fournie, d'ondes martenaux, de vibraphones, d'un célesta et d'un piano. On a dû enlever 5 rangs d'orchestre pour donner place à tous ces instruments. Comme le dit la pianiste Nadia Tagrine, présente dans la salle, l'aréopage des musiciens et des critiques est là, au grand complet, attendant avec curiosité, si ce n'est toujours avec sympathie, ce qui va sortir de toute cette artillerie. Le concert est retransmis en direct à la radio. 1950, c'est seulement la 3e édition du Festival d'Aix-en-Provence, mais sa programmation est déjà très attendue.
Écoutez, sous la direction de Roger Desormières, par l'Orchestre National de la Radiodiffusion Française, avec en soliste Yvonne Loriot au piano, et Ginette Martenot aux ondes Martenot, Turangalila Symphonie d'Olivier Messiaen.
L'œuvre va provoquer quelques discussions animées. Mais les témoins s'accordent sur le fait que c'est tout à l'honneur du Festival d'Aix-en-Provence d'avoir donné la première audition européenne de la Turangalila Symphonie de Messiaen dans son édition de 1950. L'œuvre est considérée comme à la pointe de la musique contemporaine. Il fallait donc un peu de courage pour la programmer. Ce qui est fait dans les meilleures conditions possibles. Les répétitions de l'œuvre ont été nombreuses et sérieuses. Les deux solistes, Yvonne Loriot au piano et Ginette Martenot aux ondes Martenot, connaissent déjà bien l'œuvre pour l'avoir créée aux États-Unis quelques mois plus tôt. Leur prestation est chaudement saluée par la critique. Dans L'Époque, Maurice Briand écrit « Un des ébahissements de cette soirée, ça a été de voir l'infaillible Yvonne Loriot jouer par cœur, avec une sûreté prodigieuse, cette terrible partie de soliste. » Le chef est loué lui aussi par le chroniqueur du journal L'Époque. Et pareillement, écrit-il, admire-t-on Roger Desormières, qui dirige l'excellent orchestre national. Net, fin, calme, aisé à son ordinaire, se jouant au milieu de cette partition toute hérissée comme un grimoire et dominant cette étonnante complication de rythme. On sait que Messiaen a des idées très personnelles sur la rythmique. Messiaen a bien sûr participé au travail préparatoire de l'orchestre. Antoine Goléa le décrit dans la salle du théâtre de plein air dans la cour de l'archevêché. silencieux, concentré, prodigieusement attentif, Messiaen suivait la répétition, ne parlant que lorsque des ornières lui demandaient un conseil ou un avis. Une fois, au milieu d'un déchaînement sonore extraordinaire, je l'entendis, étant assis à côté de lui, murmurer « Il faudrait un peu plus de maracas ». Le public du théâtre de l'archevêché d'Aix-en-Provence a été prévenu par le programme et il sait à quoi s'en tenir sur la signification de cette nouvelle œuvre. Quelques années plus tard, Messiaen s'entretient à la radio avec Antoine Goléa. Dans la forme un peu raide de l'entretien préparé, il explique là encore ce que c'est que cette œuvre.
Cette œuvre est un chant d'amour. Je crois qu'il n'est pas nécessaire de donner d'autres explications. Quant au mot Tourangali, là, qui a tant intrigué le public et la critique, je l'ai choisi seulement pour ses qualités euphoniques. Ce n'est pas un nom de femme, comme d'aucuns ont voulu le croire, c'est simplement un mot sanscrit, qui symbolise assez bien le dynamisme et la vie que j'ai essayé de communiquer à cette œuvre. Lila, en effet, signifie à la fois la force de vie, le jeu de la création, le rythme et le mouvement.
Et Turanga ?
Turanga est un mot qui a une signification analogue à tempo chez nous. Littéralement, ce serait l'allure du coursier. J'ajoute qu'on prononce toujours mal mon titre. Il faut prononcer Turange avec un accent bref sur ra, Turange, et ensuite deux accents longs, de longue durée, li, la.
L'origine de la composition de la Tourangue Li, la symphonie par Messiaen, est une commande de Serge Koussevitzky pour l'orchestre de Boston. C'est la première fois que Messiaen accepte une commande. Habituellement, il a l'humeur changeante, explique-t-il, et il n'a aucune envie d'être contraint. Mais cette commande-ci est vraiment tout sauf contraignante. Koussevitzky lui a dit en 1945 « Faites-moi l'œuvre que vous voulez, dans le style que vous voulez, de la durée que vous voulez, avec la composition instrumentale que vous voulez, et je ne vous impose aucun délai pour me remettre votre travail. » Le compositeur a commencé par longuement méditer sur ce qu'il voulait faire. Puis, il a été relativement vite à écrire. En fait, 2 ans et demi, qu'il date très exactement du 17 juillet 1946 au 29 novembre 1948.
Thank you.
Écrire une œuvre de longue haleine, comme la Turangalila Symphonie, ne peut bien sûr pas se faire d'une traite. Comme beaucoup de compositeurs, Messiaen a du temps devant lui, plutôt l'été. L'hiver, il a sa classe au conservatoire, il a sa tribune à l'église de la Trinité, les concerts, l'édition de ses œuvres, toutes occupations qui empêchent de mener à bien de grandes œuvres. Messiaen commence la composition de la Turangalila Symphonie par les mouvements qui sont aujourd'hui les numéros 3, 4 et 5. L'œuvre n'a pas encore son titre et il appelle les mouvements les trois talas. C'est sous ce titre qu'ils sont joués par la Société des concerts du Conservatoire en février 48, alors que la symphonie n'a pas encore sa forme définitive. L'œuvre soulève une houle et la critique est mitigée. Mais pour Messiaen, c'est l'occasion d'entendre la nouveauté de son orchestration.
Thank you.
voix du sang des étoiles, le cinquième mouvement de la Turangalila symphonie se trouve juste au centre de l'œuvre et clôt la première partie. Elle met en avant une sorte de déchaînement dionysiaque. C'est une longue et frénétique danse de joie, explique Messiaen. Et il poursuit « Pour comprendre les excès de cette pièce, il faut se rappeler que l'union des vrais amants est pour eux une transformation, et une transformation à l'échelle cosmique. André Breton retrouve les quatre éléments dans l'être aimé. Ma femme aux yeux de niveau d'eau, de niveau d'air, de terre et de feu. Déjà, l'amoureuse de Shakespeare disait « Ma richesse est immense comme la mer ». La Turangalila symphonie de Messiaen est la pièce centrale d'un groupe de trois œuvres qui comprennent aussi le cycle de mélodies Harawi et les cinq rechants pour ensemble vocal. Une trilogie qu'il appelle lui-même ses trois Tristan et Iseut. Si Harawi est très sombre et constitue le versant plus tragique de l'histoire, en revanche la Turangalila est du côté de la vie. Après le cinquième mouvement au caractère survolté, le sixième est le grand mouvement lent intitulé « Jardin du sommeil d'amour ». Messiaen écrit « Cette pièce est en contraste absolu avec la précédente. Les deux amants sont enfermés dans le sommeil de l'amour. Un paysage est sorti d'eux. Le jardin qui les entoure s'appelle Tristan, le jardin qui les entoure s'appelle Iseut. Ce jardin est plein d'ombres et de lumières, de plantes et de fleurs nouvelles, d'oiseaux clairs et mélodieux. » Même si Messiaen doit beaucoup à son étude des rythmes et des modes de la musique indienne, il affirme que cela n'a pas influencé l'écriture de la Turangalila symphonie.
Ni les modes, ni les rythmes employés dans la Turangalila ne sont empruntés au folklore hindou.
Mais sont, si je comprends bien, entièrement de votre invention.
Pour être franc, et si vous voulez absolument trouver une influence, elle serait plutôt d'ordre instrumental et orchestral. Elle est double. Les choros de Villa-Lobos, que je tiens pour des merveilles d'orchestration, ont été le point de départ de certains fouillis de timbres dans les mouvements les plus dynamiques. Le gamelang baliné m'a également amené à l'adjonction à l'intérieur de l'orchestre d'un ensemble de timbres percutants, trois claviers, le glockenspiel ou jeu de timbres, le celesta et le vibraphone, auxquels s'adjoint souvent le piano solo. «
Bien sûr, l'orchestre de Boston, commanditaire de l'œuvre, qui a eu la primeur de la création de la Turangalila Symphonie sous la direction de Leonard Bernstein le 2 décembre 1949. Les mêmes interprètes, rejoués à nouveau au Carnegie Hall de New York le 10 décembre, le jour de l'anniversaire de Messiaen, ses 41 ans. La première européenne, donc, a été réservée au Festival d'Aix-en-Provence en ce 25 juillet 1950. À l'entracte, on parle déjà de la puissance de l'œuvre, même si certains lui reprochent une trop grande complication et un usage trop important des percussions. Maurice Briand, dans le journal L'Époque, déclare « C'est le sacre du printemps d'Olivier Messiaen. Voilà ce que j'ai reçu, un choc en pleine poitrine. » L'article du Monde, lui, déclare d'abord « Turangalila est un chant d'amour » et conclut « Au vrai, Turangalila est un long désert avec de belles oasis, mais c'est peut-être le symbole de l'amour. » Dans Combat, la pianiste Nadia Tagrin intitule son article « Beaucoup de bruit pour quelque chose ». Elle décrit la sortie du théâtre. Durant une heure, la foule emplit le parvis de l'archevêché, discutant ferme, et l'on pouvait entendre, suivant les groupes, « Casino de Paris »,« Paramount »,« Dynamisme puissant »,« Œuvre géniale »,« Trouvaille de rythme »,« Sensualité douteuse »,« Mélange de Massenet et de Scriabine »,« Une date heureuse dans l'histoire de la musique », etc. Georges Auric et Francis Poulenc se sont brouillés à mort pendant 8 minutes, jusqu'à ce que la belle Nora Auric intervint en médiatrice. Assez curieusement, personne ne semblait beaucoup se préoccuper de l'opinion personnelle de Messiaen. Cela dit, il nous a semblé que l'on avait affaire à une œuvre authentique, écrite par un merveilleux acousticien, et que, mauvais goût ou pas, cette œuvre s'imposait avec une force indiscutable. Tout s'est terminé par une descente générale sur le cours Mirabeau, à la Brasserie Royale ou à l'aristocratique Café des Deux Garçons. Et l'on a vidé force pot à la santé des modes indus. Finale de la Turangalila Symphonie d'Olivier Messiaen, le jour de sa création européenne le 25 juillet 1950 au Festival d'Aix-en-Provence, avec Yvonne Loriot au piano, Ginette Marteneau aux ondes Marteneau, l'Orchestre National de la Radio-Télévision Française, dirigé par Roger Desormières. Et en cours d'émission, vous avez écouté aussi la version de l'Orchestre Philharmonique de Radio France avec Roger Muraro et Valérie Hartmann-Claverie. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont sur francemusique.fr sur la page Musicopolis, où vous trouverez aussi en bonus web l'entretien de Messiaen avec Antoine Goléa. Et pour nous écrire, rien de plus simple, vous cliquez sur l'onglet Contact. Notre grande petite équipe était composée aujourd'hui de Jean-Michel Bernot pour le mixage, Claire Lagarde pour la réalisation et Françoise Monteil pour les recherches et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.